Les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides.
Ici Annie Vincey, je vais vous lire deux extraits de mon roman au sud du Rio Grande. Bon, voilà la frontière, je vais sortir les passeports, l'interrompt maman. Paul se place dans la file d'attente. Il y a beaucoup moins de monde qu'à l'aller. Je recommence à avoir peur. Mon estomac se noue. J'essaie de me convaincre pour la centième fois que tout va bien se passer. Paul s'énerve aussi, ce qui n'aide en rien. J'espère qu'ils ne vont pas nous fouiller. Ils surveillent davantage quand il y a moins de monde, marmonne Paul. Et qu'est-ce que ça peut faire qu'ils nous fouillent, demande maman. Ça fait que je n'ai pas envie qu'ils trouvent les 6 bouteilles de tequila que je rapporte. Sa tequila. Il s'inquiète pour 6 malheureuses bouteilles. Une chance qu'il n'est au courant de rien. Je l'imagine en train de trembler à l'approche du douanier américain. D'ailleurs, c'est notre tour. L'officier nous pose les questions habituelles. Nous donnons les réponses habituelles. Tout va vite, trop vite. Il s'apprête à nous dire d'avancer lorsqu'il jette un coup d'œil à notre chargement. J'entends maman qui explique que c'est notre chien. Le douanier veut voir les certificats de vaccination. Je me sens faiblir. Suite à la réponse négative de maman, le douanier se lève, sort de sa guérite et contourne l'auto. Il demande à Paul d'ouvrir la porte arrière. Je n'ai pas le temps de réagir, je ne peux rien faire. Tout se déroule comme dans un film au ralenti. Un film sur lequel je n'ai aucun contrôle et que je ne peux pas interrompre. Ils trouvent Rosa, la font descendre, devant un Paul estomaqué, une Sylvia incrédule, une Cynthia hystérique et un Francis mortifié. Je suis témoin de son arrestation, impuissant, obligé de me taire devant tout le monde pour nous sauver du désastre. Les douaniers américains l'ont remise aux autorités mexicaines et ils l'ont enfermée dans une petite pièce. J'entends encore ses pleurs, ses cris de fureur. C'est très dur de rester sourd et aveugle devant sa détresse. Je la vois tambourinant de ses poings fermés contre la fenêtre de la salle de détention. Je me sens tellement inutile. Je me retiens pour ne pas intervenir. Mais Rosa avait raison. Je dois protéger ma famille qui n'a rien à voir avec toute cette histoire. Donc, tout ce que je peux faire, c'est rester là, pétrifié, spectateur muet de cette scène horrible. J'essaie désespérément de croiser son regard pour lui faire comprendre que je ne l'abandonnerai pas. Même si je fais semblant de ne pas la connaître, je veux qu'elle comprenne que je ferai tout pour la sortir de là. Il nous amène tous les 4 à l'intérieur du poste pour nous interroger. Évidemment, personne ne sait d'où elle sort. Il raconte que la dernière fois qu'ils ont vu le chien, c'était au restaurant, il y a un peu plus d'une heure. La seule hypothèse plausible, c'est que cette jeune fille a voulu profiter de notre voiture pour entrer illégalement aux États-Unis. Elle a dû faire sortir le chien pendant qu'on était en train de manger. Je tiens exactement le même discours que les autres. Quant à Cynthia, elle ne cesse de pleurer la perte de son chien. Bref, tout le monde a l'air tellement convaincu de ne rien savoir de tout cela qu'il nous laisse repartir après quelques heures d'interrogatoire. Les agents d'immigration sont même sympathiques à notre cause. Ils nous expliquent que nous ne sommes pas les premiers à être victimes de ce genre de choses. Pour eux, la question de la surveillance des frontières constitue un véritable casse-tête. Ils disent qu'il faudrait trouver une solution radicale pour empêcher tous ces immigrants de venir les envahir. En plus de ce que je viens de vivre, je dois subir les lamentations des douaniers de l'oncle Sam, envahis par les méchants étrangers sans papier. Il y a même une femme qui console Cynthia d'avoir perdu son chien. J'ai le cœur en lambeaux. J'entends encore résonner à mes oreilles les cris de Rosa. Je vois sa bouche articuler mon nom entre 2 sanglots. Mon plan a échoué. J'ai perdu mon amour et je ne peux le dire à personne. Et personne ne peut me consoler. J'envie Cynthia qui, elle au moins, a le droit de pleurer la disparition de son chien. Moi, je dois faire semblant de rien. Alors que je suis mort à l'intérieur. Mort d'horreur, mort de peine, mort de remords. » J'ouvre la fenêtre pour laisser pénétrer un peu de l'air vif de septembre et je commence à défaire mon sac. Entre deux chandails, un petit prince attend patiemment de voir la lumière du jour. Après avoir frotté du revers de ma manche la vitre poussiéreuse qui voile son regard, je l'installe précautionneusement sur ma table de chevet, à côté de mon radio-réveil. « Tu seras bien ici, et désormais tu m'aideras à faire la différence entre les choses importantes et secondaires, à trier l'essentiel de l'accessoire. Et puis, tu seras moins seul sur ta petite planète, car tu sais, moi aussi j'ai parfois l'impression d'être seul, même si ma planète est grande. » Puis je m'installe à l'ordinateur pour envoyer un courriel à Enrique. Cher cousin, tu trouveras dans le troisième tiroir de ta commode une enveloppe contenant un peu plus de 11 000 $ provenant de la vente de la statuette. Je te les confie car je connais ton sens de l'honneur et ton honnêteté. J'avoue qu'au début, ça me tapait un peu sur les nerfs, mais aujourd'hui, je réalise à quel point tes qualités me sont précieuses. Je veux que tu utilises cet argent pour le dispensaire et que tu t'assures qu'il y a toujours assez de médicaments pour soigner tout le monde. Essaie de ne pas trop en vouloir à ton père. C'est son ambition qui l'a mené là. La même ambition qui t'habite, mais dont tu te sers intelligemment pour en faire profiter les autres qui n'ont pas ta chance d'étudier. Dans le fond, l'argent de ton père, quelle que soit sa provenance, te sert à accomplir tes rêves. Tu l'utilises comme un moyen pour arriver à tes fins. Lui, il a fait de l'argent son objectif premier. Ça l'a rendu aveugle. Essaie tout de même de lui pardonner. Un père, c'est unique et précieux, et sans doute qu'un jour, il devrait rendre des comptes devant la justice de Dieu ou celle des hommes. Et ce jour-là, il aura besoin de toi. Quant à moi, j'ai pris une résolution cette année. Je vais être plus sérieux à l'école, et surtout, je vais travailler plus fort en français, car je vais écrire un livre. Un livre qui racontera mon voyage au Mexique, et qui fera connaître Rosa à plein de gens pour que tout le monde sache combien je l'aime et que je ne sois plus le seul à la pleurer. Finalement, je te demande un dernier service. Pourrais-tu, de temps en temps, aller pour moi au cimetière et y déposer des fleurs pour Rosa? Gracias, Francis. Voici un extrait du livre intitulé « Le silence d'Enrique ». Après avoir éprouvé un état de tension continue, mes nerfs se dérobent, me laissent tomber et je craque livide. D'énormes larmes emplissent mes paupières et dégoulinent, impudiques, délayant les traces terreuses qui maculent mes joues. On a sauvé l'enfant du déchaînement des éléments contre ce ciel en furie qui déverse des trombes d'eau sur les flancs de montagnes déjà alourdis par la fonte printanière. Et pourtant, au lieu de me réjouir comme les autres, je ne trouve rien de mieux à faire que de m'asseoir au bord de cet affreux gouffre vaseux et de pleurer comme un gamin. Le spectre de la mort est venu me visiter à deux reprises dans ma vie, pour m'enlever à jamais des êtres phares essentiels à mon bonheur. Depuis la disparition de papa, puis celle de Rosa, mes rapports avec la vie ont changé. Je ne tiens plus rien pour acquis, et dès que Lucifer se pointe, que je sens son odeur fétide planer autour de moi, je le prends au sérieux. La mort ne touche pas seulement les autres, j'en ai l'expérience. Je la vois venir de loin, projetant son ombre sur n'importe qui, un père de famille, une adolescente abandonnée, ou même une petite enfant coincée dans un trou d'eau. Ce soir, j'ai eu terriblement peur d'assister, impuissant, à la mort de cette fillette. Mes larmes ne sont que la manifestation d'une frousse terrible. Elles vont choir, une à une, dans la vase, rejoignant leurs congénères, retournant valser avec les autres gouttelettes, réintégrant l'immuable cycle de l'eau. Enrique s'assoit à mes côtés et commence à me marteler les côtes de ses poings fermés comme nous avions l'habitude de le faire étant plus jeunes. Il essaie de dédramatiser la situation, voyant que j'ai subi tout un choc. « Allons, Francis, tout s'est bien terminé, et grâce à ton installation. Tu crois qu'elle va s'en tirer? » C'est sûr, les enfants sont plus résistants qu'on ne le croit généralement. Tu iras lui rendre visite demain à l'hôpital et tu t'en rendras compte par toi-même. Allons, viens maintenant, il y a sûrement d'autres personnes à aider. Voici un troisième extrait, celui-là tiré du troisième tome de cette trilogie intitulé « Un sirop au goût amer ». Amelia et moi suivons Yun-Yi qui se dirige à grands pas vers une large avenue qu'elle emprunte vers le nord. Nos silhouettes se reflètent dans les vitrines des commerces qui jalonnent la rue principale. Le clocher d'une église baroque apparaît bientôt sur la gauche, surplombant une place achalandée. Plusieurs étals de fruits et légumes semblent jouer du coude pour bénéficier de l'emplacement le plus stratégique. Un peu plus loin, regroupés autour d'une fontaine, une demi-douzaine de dames rivalisent pour la vente d'œillets multicolores. Découragée, j'interromps la marche de notre interprète alors que celle-ci se dirige résolument vers ses fleuristes improvisées. « Tu penses qu'on peut la retrouver parmi les autres? » « Ici, tout le monde se connaît. On demande Madame Horvat. » Yun-Yi a raison. Après avoir questionné deux ou trois dames, l'une d'elles désigne enfin celle que l'on cherche. Nous nous approchons doucement de la vieille dame. Celle-ci est assise sur le muret qui entoure la fontaine. À ses pieds, trois ou quatre seaux en plastique contiennent la totalité de son inventaire floral. Je scrute son visage avec beaucoup de curiosité. Il s'agit peut-être d'un membre de ma famille biologique, quelqu'un qui ne se doute peut-être même pas de mon existence. Je laisse le soin à Yun-Yi de l'aborder. Quant à moi, je continue à observer son visage, sa gestuelle, avec l'espoir de reconnaître un air, un geste, de percevoir un lien quelconque qui me rattacherait à elle. Malheureusement, aucun signe ne se manifeste. La dame porte un foulard fleuri noué sous le menton. Ses prunelles, autrefois brunes, laissent transparaître le voile blanchâtre de l'âge. Sur une robe vaguement rayée, elle porte une veste en lainage devenue informe et incolore par l'usure du temps. Pensant avoir affaire à des clientes, elle commence à nous proposer sa marchandise. À mesure que notre interprète lui explique la situation, la vieille se met à me dévisager avec de plus en plus d'intérêt. Petit à petit, ses yeux doux, aux paupières lourdes et flétries, s'embuent. Elle dépose alors le petit bouquet qu'elle tenait à la main et se met à me caresser la joue. « Rojikam, Rojikam, » murmure-t-elle d'une voix éraillée, mais pourtant mélodieuse. Ses doigts noueux, encore humides de l'eau des fleurs, laissent sur ma joue une impression de pur bonheur. À cet instant, je comprends que cette vieille paysanne, toute menue devant moi, ne peut être que ma grand-mère. Si vous êtes intéressé à poursuivre votre lecture de cette trilogie, le tome 1 s'intitule « Au sud du Rio Grande », publié chez Pierre Tisser, dans la collection Conquête. Voici la quatrième de couverture. Bien malgré lui, Francis se trouve obligé d'aller passer ses vacances au Mexique avec sa mère. Paul, l'amoureux de sa mère, et l'impayable Cynthia, la fille de ce dernier, font également partie de l'expédition. Ce n'est vraiment pas ce qu'il avait prévu pour l'été de ses 16 ans. Heureusement, de l'autre côté de la frontière des États-Unis, au sud de ce fleuve qu'on appelle le Rio Grande, un nouvel univers l'attend. Son cousin Enrique lui servira de guide dans cette découverte qui est aussi celle de ses racines. Mais c'est au cœur d'un bidonville, à travers un regard ensorcelant, orné de longs cils noirs, que Francis prendra conscience de l'autre visage du Mexique, celui que les touristes préfèrent ignorer. Voici la quatrième de couverture du deuxième tome, Le silence d'Enrique. Deux années se sont écoulées depuis cet été tragique et inoubliable au cours duquel Francis s'était lié d'amitié avec son cousin Enrique. Or, depuis quelques semaines, le jeune Lavallois est sans nouvelles de lui. Les autorités mexicaines sont formelles, celui-ci a bel et bien disparu. Que lui est-il donc arrivé? Très inquiet, Francis décide de tout quitter pour partir à sa recherche. Les indices qu'il trouve dans l'appartement d'Enrique, à Mexico, le conduisent en France dans la région de Toulouse. Avec la complicité de la belle et intrigante Aurélie, cette quête au cœur des Pyrénées françaises mènera Francis sur des sentiers imprévisibles et jalonnés de péripéties. Et pour terminer, la quatrième de couverture du troisième tome de cette trilogie, Un sirop au goût amer. Rosalie a 15 ans. C'est une adepte du patinage artistique. Toutefois, en cet été passé loin de sa mère, sous la garde de son frère, elle va se détourner de sa passion pour en découvrir de nouvelles et tout aussi intenses. Une lettre mystérieuse et qui la concerne, Rosalie en est certaine, son adoption va la mener jusqu'en Hongrie. Là-bas, Elle renouera avec ses origines et avec certains membres de sa famille. Elle comprendra aussi les raisons de son abandon. En même temps, cet été-là, Rosalie va faire la découverte de l'amour et du goût amer qu'il peut parfois avoir.
Les chuchoteurs du livre au cœur est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC des Pays d'en haut dans le cadre de l'Entente de développement culturel.